Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 9h15,
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et le journal, c'est avec vous Quentin Vinet, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une ce matin, un avis de recherche dans tout Paris.
Une enquête est ouverte pour retrouver un homme filmé en train de faire des gestes obscènes devant une femme en pleine rue. Cette femme ne s'est pas laissée faire et a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo devenue virale, vous l'entendrez. Le problème électrique n'est toujours pas réglé ce matin, gare Montparnasse à Paris, mais le retour à la normale se fera peut-être demain. Des ingénieurs se relaient jour et nuit, nous serons à leur côté. Les sauveteurs en mer appellent à la prudence sur la côte atlantique. La mer était agitée ce week-end, il y a eu un nombre record d'interventions. Et puis le Tour de France est fini, le Gallois Geraint Thomas vient d'être sacré sur les Champs-Élysées. Mais il y a un vrai débat sur la prononciation de son prénom, le sujet fait carrément polémique contre manche.
Polémique, c'est le mot. Après le journal, un été en France sur les bords de Saône, on s'installera dans une guinguette.
RTL Matin.
Elle s'appelle Marie et elle a eu le courage de ne pas se laisser faire.
Marie est étudiante à Paris et s'est retrouvée la semaine dernière face à un homme qui mimait les gestes obscènes devant elle en pleine rue dans le 19e arrondissement de la capitale. Elle a eu le courage de l'insulter, mais l'homme en question l'a frappée au visage. Heureusement, il y avait des témoins. Certains ont filmé la scène. Marie a publié la vidéo sur les réseaux sociaux pour que son agresseur soit retrouvé et condamné par la justice.
On se sent vraiment mais humilié, provoqué, rabaissé en fait. On nous prend pour des objets sexuels en fait. Je lui réponds et il pense qu'il est encore plus dans son droit de venir continuer à m'agresser. Il allait me frapper, je le sais. Oui, clairement. Quand il a commencé à venir vers moi, j'ai eu un énorme rush d'adrénaline. Donc du coup, j'ai juste pris le coup du mieux que j'ai pu avec dignité en le regardant, en lui montrant qu'il ne me soumettrait pas. Et que je continuerai à répondre et que je suis totalement dans mon droit et que c'est pas lui qui fait la loi. Surtout pas baisser les yeux, mais une haine. Lui, il voulait me remettre à ma place. Il tolère pas qu'on réponde, qu'on ouvre notre gueule, qu'on soit nous-mêmes, qu'on vive notre vie. Ça, c'est inadmissible. C'est hors de question. Cet homme, il doit être jugé devant la justice. Pour toutes les femmes, c'est ma responsabilité d'en parler, pour le dire que c'est un vrai problème de société qui touche toutes les femmes et que les femmes partout dans le monde méritent le respect. Il faut pas se laisser faire, il faut continuer à répondre, à ne pas baisser les yeux, à surtout ne pas perdre espoir parce que ça va changer. Il faut vraiment que les choses bougent et maintenant.
Voilà le témoignage de cette jeune femme agressée boulevard de la Villette à Paris au micro au RTL de Vincent Serrano. Il faut que les choses bougent, on l'entend. Les premières amendes contre le harcèlement de rue, elles seront mises à l'automne. C'est ce que dit ce matin dans Le Parisien la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Et le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes revient d'ailleurs cette semaine dans les mains des parlementaires.
RTL Matin, il est 7h03.
Le retour à la normale, ce sera peut-être demain, gare Montparnasse à Paris.
Seulement un train sur deux circule aujourd'hui vers l'ouest et le sud-ouest, toujours à cause de l'incendie d'un transformateur électrique vendredi au sud de la capitale. Le week-end de chasse et croisée a été fortement perturbé, mais les problèmes seront réglés demain, c'est ce qu'assure le réseau RTE. La SNCF avait parlé dans un premier temps d'un retour à la normale pour jeudi. Mourad Djabari s'est rendu pour RTL à l'endroit qui pose problème pour voir le travail des ingénieurs et des techniciens.
Dans une galerie sombre d'un mètre de large à 5 mètres sous terre, 80 ingénieurs et techniciens se relaient jour et nuit depuis vendredi. Loïc, le chef des travaux et ses hommes.
Tiens, je te présente mes collègues, Alexandre, Benoît, Anthony.
Entourés de gros câbles, ils sont chargés du raccordement du courant à ce poste électrique de secours, placé à une centaine de mètres de l'ancien qui a brûlé.
On a réalimenté avec des liaisons provisoires. On décale en fait le poste qui a cramé vers une autre sous-station qui existait à côté mais qui n'était plus trop utilisé. Et on refait des jonctions pour remettre le courant, mais en enlevant en fait le poste qui a cramé avec une nouvelle sous-station.
Et pour cela, Loïc et son équipe ont tiré sur plus de 50 mètres des câbles qu'ils coupent, raccordent et isolent à la main.
C'est un câble 63 000 volts où on fait en fait une jonction en plein milieu. C'est des câbles à écran plomb, donc c'est 10 kg à peu près au mètre, voire plus, sur de grandes longueurs, à manipuler, à bouger, oui, c'est lourd.
La fin des travaux est prévue en milieu de matinée et c'est seulement après les premiers tests que l'on saura si ce poste électrique de secours est une opération réussie.
Mourad Djabari, reportage pour RTL.
Et le week-end a été intense également pour les sauveteurs en mer.
Le nombre d'interventions a même atteint un niveau historique sur la façade atlantique. Une centaine du Pays Basque jusqu'à la Bretagne à cause de la mer déchaînée. Les conditions météo étaient en fait dignes d'une tempête automnale, explique Jean-Jacques Leland des sauveteurs en mer du Finistère. Lui-même a dû sortir pour secourir un voilier en difficulté par une mer de force 5 près de l'île d'Ouessant.
En force 5, vous avez en gros des vagues qui font un étage et demi, quoi, donc 4 mètres, quoi, voilà. On est dedans, on voit le voilier qui fait 12 mètres de long, il faut arriver à 10 mètres de lui pour commencer à le voir, parce qu'il est dans les creux des vagues et on a du mal à l'apercevoir. Le skipper et son équipier étaient dans une situation physique plutôt bien dégradée, très fatigué, en dérive depuis pratiquement 48 heures. Là. La météo se dégrade. choses. Et puis, on a l'impression que les gens, ça les perturbe pas, quoi. Ils continuent à leur faire leur petite sortie en mer. Et puis, ils se retrouvent en difficulté. Et je suis sauveteur, mais je suis aussi plaisancier. Et quand il y a des météos comme il y a eu ce week-end, je ne sors pas avec mon bateau. Pourtant, j'ai l'expérience. J'ai des notions de sauvetage, de sécurité en mer, enfin, que d'autres n'ont pas. Mais je ne sors pas. Et on voit des gens qui sortent quand même et qui prennent des risques. C'est de l'inconscience, ouais, carrément, ouais.
Jean-Jacques Leland des sauveteurs en mer de la SNSM, joint pour RTL par Nicolas Bobby. Des accidents ont fait 4 morts ce week-end en montagne, 2 hommes et 2 femmes, notamment un alpiniste italien qui pratiquait de l'escalade dans le massif des Écrins. Il est tombé d'une centaine de mètres de haut.
Après un week-end agité, les températures vont repartir à la hausse toute la semaine.
Oui, 4 départements sont toujours en vigilance orange ce matin pour les fortes chaleurs. Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et les Pyrénées-Orientales. Il fera jusqu'à 37 degrés aujourd'hui dans le sud et de nombreuses villes maintiennent leur plan de vigilance pour aider les personnes les plus fragiles comme les seniors. Un exemple parmi d'autres avec vous, Julien Fautra, dans une maison de retraite à Issy-les-Moulineaux, c'est près de Paris.
Oui, le personnel s'active pour garder un œil sur les 131 résidents, mais parfois l'accueil est un peu frais. Bernard, 84 ans.
Un verre de vin le midi, un jus de pomme l'après-midi, un verre de vin le soir.
Et vous buvez pas d'eau ?
Pas tellement. Leurs affiches, je les connais. Oh, mais ils ont mis qu'il fallait boire, qu'il fallait se rafraîchir. Enfin, non, mais j'ai pas soif, moi.
Hydrater les résidents relève donc parfois du défi. Chloé Leblon, la directrice de l'EHPAD, incite le personnel à trouver des petites astuces.
Tout à l'heure, une aide-soignante nous disait qu'elle voulait fêter ses 20 ans avec eux, donc elle leur a servi de l'eau pétillante. Et puis bon, ben voilà, ils ont bu, ils ont trinqué. Et c'est des petites choses comme ça qui fait qu'on s'assure que derrière, ils s'hydratent, quoi.
Certaines familles s'inquiètent. Christine s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu'il faut donc suivre avec beaucoup d'attention.
Quand on est avec elle, on incite à boire, évidemment. Moi, j'en vois toujours des petites bouteilles, hein. C'est des petites bouteilles, j'en vois toujours dans sa chambre. Après, combien elle en a bu, je ne peux pas trop vérifier.
C'est ici que le Premier ministre Édouard Philippe s'est déplacé la semaine dernière et qu'il a assuré que les pouvoirs publics étaient prêts à affronter cette canicule.
Julien Fautra pour RTL. L'Europe bat des records de chaleur et le bilan s'est alourdi à 91 morts en Grèce une semaine après les feux qui ont ravagé la région d'Athènes. 4 touristes étrangers font partie des victimes. 2 Polonais, un Belge et un Irlandais qui venaient tout juste de se marier et qui étaient en voyage de noces. En Indonésie, plus de 500 randonneurs sont bloqués depuis ce week-end après un séisme sur l'île de Lombok. Un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter, c'est l'île juste à côté de Bali. Les incendies ne sont pas tous maîtrisés ce matin en Californie. Environ 12 000 pompiers tentent d'éteindre les flammes qui ravagent l'État américain depuis la semaine dernière. Il y a déjà 6 victimes. Le brasier le plus impressionnant se situe au nord de San Francisco et les secours parlent d'un vent erratique qui complique leur intervention. Donald Trump lui a passé le week-end à jouer au golf dans sa résidence de Floride.
Donald Trump qui va très rapidement s'apercevoir des conséquences du bras de fer commercial qu'il a lui-même engagé avec le reste du monde.
Certains produits phares extrêmement consommés aux États-Unis coûtent un peu plus cher pour les consommateurs, comme le Coca-Cola par exemple. Et les grandes entreprises américaines préviennent déjà qu'elles entendent bien protéger leur marge face à l'envolée des cours de l'acier et de l'aluminium qui augmentent les coûts de production. Nicolas Tarka, vous êtes aux États-Unis pour RTL. Les Américains commencent à être touchés par les mesures de leur propre président.
Oui, le PDG de Coca, James Quincy, a été très direct face à ses actionnaires. Les canettes de Fanta ou Sprite coûtent plus cher à produire du fait des taxes sur l'aluminium imposées par l'administration Trump. Pas d'autre choix que de répercuter cette hausse sur les consommateurs.
Avec les taxes sur l'acier et l'aluminium, nos coûts augmentent. Voilà pourquoi on annonce cette hausse de prix assez inhabituelle. Je suis sûr que les consommateurs comprennent les raisons de cette augmentation.
Un comble pour Donald Trump lui-même, qui boit une dizaine de coca par jour et qui promettait que la hausse des tarifs douaniers n'aurait pas d'impact pour les consommateurs américains. Autre boisson dont le prix pourrait augmenter, la bière. Les plus grands fournisseurs américains utilisent 36 milliards de canettes en aluminium chaque année. Ces taxes américaines sur l'acier et l'aluminium ont aussi un impact sur les constructeurs automobiles américains. Prenez General Motors qui évalue son surcoût à plus d'un milliard de dollars rien que pour 2018.
Nicolas Tarka avec une canette de soda aux États-Unis pour RTL.
RTL matin, il est 7h09.
Et on a sabré le champagne hier soir au Pays de Galles.
Le Gallois Geraint Thomas vient de remporter la 105e édition du Tour de France pour la première fois de sa vie à 32 ans devant son coéquipier Chris Froome qui était le tenant du titre. Alors on dit Geraint Thomas, nous en France, mais en réalité on devrait prononcer Geraint Thomas. Je ne sais pas si vous avez...
Mais il n'est pas allemand.
Non, il n'est pas allemand, il est gallois. Mais c'est presque un sujet polémique de l'autre côté de la Manche. Vous confirmez, Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL.
Le Gallois est loin d'être un petit nouveau sur les podiums. Il a notamment 2 médailles d'or olympiques à son actif. Et pourtant, les médias, et notamment la très britannique BBC, continuent à mal prononcer son prénom. Le présentateur s'est fait copieusement huer sur les réseaux sociaux. Honte à vous. Ça ne paraît pas fou quand même de demander à la BBC de prononcer correctement le nom d'un champion, se sont insurgés des fans. Un autre a posté une carte météo de la Grande-Bretagne pendant la vague de chaleur, humoristiquement sous-titrée « Choquante répartition géographique de l'incapacité à prononcer le nom du vainqueur du Tour de France, l'Angleterre est en rouge vif alerte et le pays de Galles en jaune plus tranquille. Le message est clair. » Alors, les présentateurs des chaînes nationales ont fait des efforts, mais pour s'assurer de la correcte prononciation, il fallait écouter BBC Wales, la télévision en gallois. Ça ne fait pas de mal de répéter, le prénom se prononce donc. Il va falloir s'y faire, hein, car le coureur est chaudement encouragé par ses fans à continuer à porter le flambeau de la principauté, mais aussi de tous les du monde entier.
La Marie Billon pour RTL, Geraint Thomas donc en jaune. Le Slovaque Peter Sagan remporte pour la 6e fois le maillot vert du classement.
Et on ne dit pas Sagan. Hein.
Non, Sagan. même si hier, c'est le Norvégien Alexander Kristoff qui a remporté au sprint la dernière étape. Deux Français terminent sur le podium avec des maillots distinctifs. Pierre Latour avec la tunique blanche de meilleur jeune et Julian Alaphilippe avec le maillot à poids de meilleur grimpeur, facilement reconnaissable.
Je suis juste super content que ce Tour de France se termine. Ça a été beaucoup d'émotions. Il y a eu des moments forcément difficiles, mais ça a été au-delà de mes espérances. Et je suis vraiment content. Ça m'a permis de gagner 2 étapes et de finir maillot à poids sur les Champs-Élysées. Donc là, finalement, je me dis, je suis content de ce qui m'est arrivé. Et viser le maillot jaune un jour sur 3 semaines, c'est complètement différent. C'est quelque chose auquel je ne pense pas du tout pour l'instant.
Julian Alaphilippe, interrogé par Christophe Paco pour RTL. 2 Français sur le podium final des Champs-Élysées. Ce n'était plus arrivé depuis 1995 avec Richard Virenque et un certain Laurent Jalabert.
Et on dressera le bilan de ce Tour de France 2018 à 7h45 en compagnie du patron du Tour depuis 11 ans maintenant, Christian Prudhomme.
Un mot de foot, Gigi Buffon n'est pas sûr d'être le gardien numéro 1 du PSG la saison prochaine. L'Italien le répète alors que son entraîneur allemand, Thomas Tuchel, se pose des questions et va devoir choisir entre Buffon, Alphonse Areola et l'allemand Kevin Trapp.
Merci Quentin Vinette, on dit comme ça.
Ça doit se prononcer comme ça, oui. Peut-être pas en gallois, mais en anglais, oui.
Merci, on vous retrouve à quelle heure?
À 8h.
C'est parfait.